et que vous êtes un philosophe qui a voyagé, qui n'est pas resté chez lui, qui a voyagé en Chine, c'est-à-dire dans la culture chinoise, c'est-à-dire en passant par la langue qui est le chinois, pour interroger l'Europe, pour interroger la pensée européenne, c'est-à-dire pour mieux comprendre ce que nous pensons et pour comprendre ce que nous ne pensons pas lorsque nous pensons, parce qu'il y a ce à partir de quoi nous pensons comme point de départ et que nous ne pensons pas à interroger. Mais plus que cela, vous nous invitez par votre philosophie, ce sans quoi elle est féconde, à produire un chemin qui va également dans cette direction, c'est-à-dire vous nous invitez à aller vers d'autres cultures en nous aidant à y entrer, et vous nous invitez à être agile, c'est-à-dire à circuler entre les cultures comme autant de ressources qui nous aident à penser et peut-être surtout à vivre. Vous enseignez la pensée chinoise, le chinois, la pensée chinoise, la philosophie. Vous êtes professeur à l'université Paris Diderot et vous êtes titulaire de la chaire sur l'altérité au Collège des études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme. Vous tenez un séminaire où vous déployez une pensée à chaque fois originale et non pas banale. Vous êtes l'auteur d'une trentaine d'essais qui sont des essais, c'est-à-dire des tentatives pour penser, qui à chaque fois s'écartent les uns des autres, c'est-à-dire qu'ils font à chaque fois un pas supplémentaire dans ce chemin de pensée. Et le dernier essai que vous avez publié, il y a un peu moins d'un mois, s'appelle « De l'être au vivre, lexique euro-chinois de la pensée » chez Gallimard, qui est une, non pas une synthèse, non pas une reprise proprement dit, mais vous faites fructifier certains concepts pour nous les proposer, concepts chargés et nourris de cohérence chinoise que vous mettez en vis-à-vis de concepts traditionnels de la philosophie européenne, faisant jouer l'écart entre des concepts traditionnels de la pensée européenne et des pensées et des concepts chargés d'intelligibilité chinoise, mais dit en français, pour nous permettre de circuler entre ces différents concepts et d'ouvrir des nouveaux possibles dans nos manières de penser qui, sans cela, risquent, notre pensée qui, sans cela, risque de s'enliser. Vous allez nous parler de tout ça sous le titre « Ressources de la pensée chinoise, ressources de l'interrogation chrétienne », deux ressources, ou plutôt une multitude de ressources, puisque « ressources » est à chaque fois mis au pluriel, le mot « ressources ». Donc les ressources de la pensée chinoise, les ressources de l'interrogation chrétienne. Vous allez nous parler pendant une heure, donc vous avez une heure pour nous parler, suivi d'une demi-heure de questions, puisque comme vous devez rentrer à Paris ce soir, nous nous arrêterons exactement à 21h. Merci encore, vous avez la parole.
Bien, merci de votre accueil, de votre invitation. Alors, ce ne sera pas les ressources, mais des ressources, quelques-unes. Quelques-unes que je vais essayer d'évoquer. Donc, ressources, des ressources de la pensée chinoise, en vis-à-vis des ressources de l'interrogation chrétienne, c'est le titre que vous m'avez proposé. Et donc, une façon de circuler entre l'un et l'autre, ces deux bouts du grand continent, de façon à remettre en chantier la pensée. Alors, il vous a été dit, je suis au départ philosophe, donc grec. J'ai fait le choix de passer par la Chine pour y trouver un dehors qui me permette de prendre du recul dans mon esprit. C'est donc cette démarche-là qui m'a conduit, jeune helléniste, normalien, de me dire, voilà, le grec c'est bien, mais c'est si bien qu'il faut le quitter. Il faut prendre du recul pour essayer de, eh bien, de ne plus dire « nous sommes héritiers des Grecs » comme une banalité, mais de le dire en l'ayant éprouvé. Et pour l'éprouver, eh bien, prenons du recul, remettons en perspective notre pensée. Avec ce que ce « notre », évidemment, a de douteux, puisqu'on ne sait pas quelle est sa pensée. On ne le sait qu'après en être sorti, l'avoir affronté, confronté à d'autres, bref, en circulant. Donc, je suis grec, j'ai choisi de passer par la Chine, j'ai entrepris donc un travail à la fois de dépaysement et, si j'ose dire, de repaysement. Dépaysement par la pensée chinoise. Qu'est-ce qu'il y a à la pensée quand elle quitte ses grandes notions ? L'être, Dieu, la vérité, la liberté. Comment on pense quand on n'a plus ça ? Et puis quand on ne peut plus remonter dans sa question, quand on ne peut plus se fier sur la philosophie, quand on quitte la langue européenne qui a articulé tout cela, comment pense-t-on ? Qu'est-ce que ça fait comme épreuve pour la pensée ? Et en même temps, je dis bien en même temps, revenir sur la pensée européenne de ce dehors pour l'interroger dans ce qu'elle ne songe pas à interroger. C'est-à-dire dans ses partis pris. Ces partis pris tellement assimilés que notre pensée les vit comme des évidences, sans avoir prise dessus. Donc vous voyez, je passe par la Chine pour retrouver une prise oblique sur notre impensée. J'appelle impensée ce à partir de quoi je pense et que par là même je ne pense pas. Que je considère comme allant de soi et que je ne songe pas à interroger. Voilà en gros mon chemin et, d'étape en étape, de livre en livre, de chapitre en chapitre, j'essaie de déployer ce chantier. Et le livre qu'à Pascal David faisait allusion est une sorte de, non pas de bilan, mais de, voilà, d'état des lieux de mon chantier aujourd'hui. En tant que philosophe, ce que je fais, c'est des concepts. Donc je prends en considération les grands concepts de la pensée européenne, grandes notions dont les philosophes travaillent comme des concepts, et en vis-à-vis desquels, eh bien, je propose des cohérences chinoises qui permettent donc de réfléchir une pensée dans l'autre. C'est comme ça que je conçois, ce n'est pas de ma part une comparaison, je ne suis pas comparatiste, parce que je ne crois pas à l'intérêt de prendre la Chine et l'Europe et de les mettre comme ça en vis-à-vis East and West. Donc les termes que je vais utiliser sont un peu à l'écart de cet usage comparatiste, puisque je ne parlerai pas de différence, donc je ne parlerai pas non plus d'identité, identité et différence, vieux couple de la philosophie, mais je parlerai d'écart et de fécondité, avant de m'engager dans ce qui sera ces fécondités ou la pensée européenne, à voir ensuite comment croiser ces fécondités. Donc je précise cela pour qu'il n'y ait pas de mésentente à ce sujet. Il ne s'agit pas pour moi de chercher en Chine ou en Europe ce qui serait des différences culturelles ou des caractéristiques culturelles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de définir les cultures. Définir, c'est-à-dire montrer leurs limites, leurs finesses, leurs fins. Ce qui est le grand usage de la différence définit sa fonction. Les Grecs l'ont bien dit, n'est-ce pas ? On définit de différence en différence jusqu'à l'ultime différence qui vous livre l'essence de la chose. C'est l'Aristote. En même temps, différence renvoie à identité. Puisqu'une différence se fait, spécifie, à partir d'un genre prochain, dont les différences marquent ensuite une spécification possible. Or, je ne crois pas qu'il y ait de différence culturelle. C'est-à-dire qu'on puisse isoler des traits spécifiques à une culture, et je ne crois pas non plus qu'il y ait d'identité culturelle possible. Pourquoi ? Parce qu'une culture, le propre d'une culture, c'est de changer, c'est de muter. Une culture qui ne change plus est une culture morte, comme on dit une langue morte. Je crois que le culturel, c'est plus qu'une condition, c'est une exigence. Le culturel ne cesse de se transformer. Ce que dit très bien la Chine, pour dire culture en Chine, on dit wenhua. Punka en japonais, wen, texte, culture, civilisation, et hua, transformation. Une culture est en transformation. Donc je ne défendrai pas des identités culturelles françaises, européennes. Sujet aujourd'hui important. Que défend-on d'une culture ? Donc je ne parlerai pas des cultures donc en termes de différence, de spécificité, mais d'écart. Alors quelle différence entre écart et différence ? Eh bien c'est que les deux indiquent une séparation, mais la différence comme une distinction et l'écart comme une distance, prise de distance. Comme on dit en français communément, faire un écart. Jusqu'où va l'écart ? Faire un écart, c'est sortir de l'attendu, du normé, Alors, je crois que c'est ce qui est intéressant entre les cultures. C'est comment font-elles des écarts ? Comment sortent-elles pour nous de la tendue ? Et surtout parce que écart signifie distance qui met en tension. C'est-à-dire, au fond, ce qui m'intéresse, c'est de prendre la culture chinoise, la culture européenne, enfin, ce que j'en lis, n'est-ce pas ? Et de les mettre en vis-à-vis pour que ces deux cultures, ces deux pensées, se dévisagent l'une l'autre. Se dévisagent, n'est-ce pas ? Se dévisagent, se réfléchissent. Réflexion au sens propre, aussi au sens figuré, se réfléchissent l'une l'autre, s'appréhendent l'une par l'autre. Mon sentiment, c'est que si l'on veut sortir de la culture européenne, il faut entrer dans ailleurs. J'ai choisi cet ailleurs de la culture chinoise pour des raisons d'extériorité, extériorité de la langue chinoise, extériorité de l'histoire chinoise. Bref, c'est comme ça d'opérer une sorte de mise en vis-à-vis qui permette un dévisagement mutuel, n'est-ce pas ? À travers les écarts repérés, de remettre en tension notre pensée. Donc, non pas différence, mais écart, non pas identité, mais fécondité, ressource. Et voilà qui me conduit au thème de l'exposé. Fécondité, c'est-à-dire dans quelle mesure les écarts ouvrent d'autres possibles, font apparaître d'autres possibles. D'autres possibles à explorer, à exploiter. Je ne suis pas anthropologue, mettant en ça, rangeant des possibles comme une panoplie des cultures. En tant que philosophe, j'essaie de repérer ce qui, dans la diversité des cultures, peut me servir à penser. Donc mon projet est moins un projet de connaissance que de réflexion. Et donc, explorant ces écarts, cherchant à les exploiter, c'est de remettre en chantier à penser en tirant parti de cette diversité de ressources. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, hâtivement, parce que le sujet est immense, mais de façon indicative, dans cette mise en regard prospective, exploratoire, heuristique. Vous voyez, entre différence et écart, ce qui m'importe, c'est que la différence range. Porte à faire des tableaux, panoplie, typologie. Les anthropologues font ça, ils le font bien. Écart dérange. Oui, quand vous dites jusqu'où va. Il fait un écart. Il a fait un écart, oui, un dérangement. Et c'est ce dérangement qui me paraît, si vous voulez, pouvoir être fécond. Cet ébranlement qui en résulte, cet étrangement, n'est-ce pas, qui permet donc de déranger, d'inquiéter et de donner à réfléchir. Alors, je précise encore une fois que cet écart, que ces écarts que j'essaie comme ça de repérer et de faire travailler, ce n'était pas pour isoler les cultures, les langues, les pensées. C'est pour, au contraire, ouvrir de l'antre entre elles et produire du commun. Donc mon enjeu, c'est cela. Repérer les écarts, les faire travailler, les repérer d'autant plus que la mondialisation risque de tout standardiser, unifier, uniformiser, et faisant travailler ces écarts, ouvrir de l'antre réflexif, qui permette donc de, eh bien, de produire du commun. Car je précise cela, et ce sera mon dernier point d'introduction, le commun n'est pas le semblable. Ça, je crois que c'est le point essentiel. Et par rapport à au monde d'aujourd'hui, cherchons à produire du commun, ça ne peut pas être du semblable ou du standard ou du stéréotype. Phrase que je prends notamment chez Braque, le commun n'est pas le semblable. Le commun, ce n'est pas du clonage. Le commun, justement, est d'autant plus intense qu'il a été mis en tension par des écarts. Enfin, si je parle du commun d'une famille, du commun d'un pays, d'une culture, c'est des écarts en jeu, ouvrant de l'antre entre eux, que du commun peut advenir, du commun peut se déployer. Commun qui, donc, dans ce chantier que j'ouvre ainsi entre la Chine et l'Europe, est un commun de l'intelligible. Donc, je ne laisse pas les cultures comme ça isolées de leur côté. Au contraire, j'essaie, en faisant apparaître des écarts, les faisant travailler, de produire du commun, un commun intelligible, un commun du concept, n'est-ce pas ? Un commun du concept qui puisse justement c'est-à-dire oublier les écarts, mais à travers les écarts, dans cette mise en tension, eh bien, produire un commun qui n'est jamais un commun définitif, qui n'est jamais un commun établi, qui est un commun qui ne cesse d'être à retravailler, à remettre en chantier. Alors, c'est ce que je vais essayer d'évoquer rapidement face à ce sujet immense que vous m'avez proposé, ressources de la pensée chinoise et en vis-à-vis, en réflexion, ressources de l'interrogation chrétienne. Alors, ce qui sous-entend que Pascal David, en proposant ce sujet, soit déjà dans la symétrie. D'un côté, il y a des ressources de la pensée chinoise, d'un côté, il y a l'interrogation chrétienne. Donc, l'inquiétude serait d'un côté plus que de l'autre. Et cela peut-être, effectivement, est à considérer. Alors, ressources de la pensée chinoise. J'en évoquerai trois, et si j'ai le temps, une quatrième en complément. Trois qui figuraient un peu ce qui me paraît comme ça, ce que nous offre la pensée chinoise pour penser aujourd'hui. La corrélation, et non pas la construction. Corréler, et non pas construire. Ensuite, la maturation, et non pas la modélisation. Modélisation, grande chose de l'Occident. Et ensuite, la propension, et non pas la causation ou l'explication. Là encore, grande ressource du savoir occidental. Corrélation, corrélée. En Chine, tout est relationnel et relationnel des deux côtés. Comment dit-on chose en chinois ? Chose. Donc, si, vous l'avez dit. Est-ouest. Ah, c'est pas banal de dire que ça, c'est un est-ouest. C'est pas. C'est une corrélation. Corrélation, mise en tension. Donc, la pencheuse est corrélante. Pour dire juste en chinois, doué. Doué signifie quoi ? Ça fait pair. Apparier. La corrélation. Corrélation qui a été si importante à la pensée chinoise, le fait que le ciel ne soit pas le ciel, mais le ciel par rapport à la terre. Tien dit. C'est-à-dire, si on prend la pensée chinoise dans ses débuts, second millénaire dans notre ère, première figuration de la divinité, Shangdi, seigneur d'en haut, qu'on prie, qu'on craint, auquel on sacrifie. Et puis ce qui est advenu avec les Zhou, figure du ciel. Mais le ciel n'est pas resté de son côté. Le ciel en haut. Non. Le ciel s'est corrélé à la terre pour établir une première mise en tension, première corrélation, est-ouest, ciel-terre, yin-yang. C'est pas. Donc, termes opposés et complémentaires. La corrélation. Face à quoi le savoir grec paraît constructif ? Et je dis savoir grec parce que l'évangile est en grec. C'est pas. Le christianisme est cette religion étrange, donc intéressante, par le fait que eh bien, le prophète, la parole qu'il a comme ça, inaugurée en araméen, en langue sémitique, ne connaît pas le grec. C'est donc cette religion très étrange qui s'est dite dans une autre langue que celle dans laquelle elle s'est prononcée. Le grec, évangile, bonne nouvelle, bref. Il y a quelque chose là qui est... En plus, une autre langue, oui, pas n'importe quelle autre langue, le grec. La langue de la philosophie, la langue universelle, d'où la construction entre la sagesse des Grecs, folie de la croix, Sophia, Moria, enfin tout ce qui s'est fait en langue grecque. Donc l'inquiétude chrétienne, je pense qu'elle vient déjà de là. C'est que le message chrétien s'est fait en grec. Dans une langue qui n'était pas la langue dans laquelle le Christ s'est prononcé. Donc il y a un premier dérangement, un premier décollement, un premier dépaysement qui s'est fait langue sémitique en langue grecque. Du côté du chinois, non. L'Europe, vous savez, est une Europe des langues. On l'oublie trop aujourd'hui. Nos enfants n'apprennent plus l'allemand ou l'italien ou l'espagnol. On va vers un globish qui va être épouvantable. L'Europe était une Europe des langues. Être cultivé en Europe, c'était d'avoir plusieurs langues, plusieurs ressources de langues. Latin, grec, et puis d'autres langues, n'est-ce pas ? Et je crois que l'Europe s'est constituée dans cette tension des langues. Phrase fameuse, la traduction est la langue de l'Europe. On l'oublie trop aujourd'hui. La traduction. Oui, parce que la traduction, justement, on n'est dans aucune des deux langues. On est entre les langues, entre les langues. Et l'interrogation européenne, l'interrogation au sein même du christianisme, vient, à mon sens, déjà par là. D'abord par là, l'entre-langue. Entre l'hébreu, l'hébreu passé en grec, la Septante, et puis l'évangile grec, et puis le passage dans le latin, les pères de l'Église, grec, latin, etc. Tout ce qui s'est fait entre les langues qui a donc créé cette région. Babel, au fond, est la chance de la pensée. Ben, Babel, c'est justement le fait que la pensée est en langues diverses, et donc ces langues se travaillent, se réfléchissent, bref, mettent en tension la pensée. Le chinois, par rapport à ça, est un tout autre cas, puisque, bien sûr, il y a des dialectes chinois, mais la langue écrite, avant même l'Empire, c'est l'écriture des idéogrammes qui sont comme ça, j'ose dire, réglementés, l'écartement des roues des chars et les figures des sinogrammes. Donc, il faut partir de la langue chinoise, qui corrèle et ne construit pas. Construit très peu. Un de mes derniers essais sur le paysage m'amène à penser comment on dit paysage en langue européenne, pays-paysage, détachant du pays le paysage comme une partie de pays, face à quoi Shanshui en chinois, montagne-haut, le haut et le bas, l'immobile et le mobile, ce qu'on voit et ce qu'on entend, bref, une corrélation. Donc, richesse de la corrélation, qui est une sorte de, donc de justesse d'appariement, de couplage, de grand couplage. Yin et yang. Yin et yang, l'adret et l'ubac de la montagne, le côté éclairé ou le côté laissé dans l'ombre. Donc, inséparable, en même temps qu'opposé. La langue grecque construit. Construit, parce qu'elle a l'outillage pour cela. Pensez que la langue chinoise ne conjugue pas, ne décline pas. Pas de relatif, pas de conjonction, pas de principal et subordonné. Ne pas conjuguer, non seulement ne pas distinguer des temps, mais ne pas distinguer des voix, des modes, ni passifs, ni actifs. Ce qui montre que penser en Europe, penser chez les Grecs, c'est choisir. Quand je pense, je choisis. Pluriel ou singulier ? Nominatif ou accusatif ? Voix active ou voix passive ? Penser, c'est choisir. Alors que penser en Chine n'est pas choisir. Et la formulation chinoise la plus déployée, c'est la formule, formulation, mise en formule, c'est-à-dire arriver à la formulation la plus adéquate, la plus juste, la mieux appariée. Non pas construire, mais corréler. Je vais très vite. Par rapport à la modélisation, qui a été la grande, disons, poussée de la pensée grecque, eidos, forme modèle. Et ce qui a été pour nous, en Europe, le modèle du modèle, les mathématiques. Et ce qui a donc à informer le savoir européen, la modélisation, pour être efficace, qu'est-ce que je fais ? Je fais un plan, je trace un modèle, un devoir-être, que je projette sur la situation. Force du modèle, eidos. En stratégie chinoise, il n'y a pas de plan, pas de modélisation. C'est bien que l'expérience de la guerre, c'est justement, c'est que la guerre ne se passe jamais dans les faits comme on l'a préparé, modélisé, planifié. Le plan de guerre, toujours, à un certain moment, se trouve abandonné. Pas de modélisation en stratégie. Au rôle local des mathématiques dans la pensée chinoise. Autant en Grèce, les mathématiques sont le savoir, c'est pas, ou la vérité du savoir, ou l'exigence de vérité du savoir et sa nécessité. Comme dit Platon, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et c'est à ça que l'Occident a dû sa puissance, la modélisation. Si vous prenez les deux cultures, chinoise, européenne, jusqu'au XIVe, XVe siècle, elles sont aussi développées techniquement l'une que l'autre. Voire la Chine en avance. Prenez les jonques, l'imprimerie, la boussole, etc., l'hydraulique. Qu'est-ce qui fait que soudain, XVIe siècle, s'opère ce grand déphasage entre les deux civilisations, les deux grands bouts du grand continent, que la civilisation chinoise continue à se transformer, mais que l'Europe connaît une sorte de grand déphasage, qui est l'invention d'un nouveau savoir, une nouvelle science en tout cas, la science physique, galiléenne, cartésienne, newtonienne, qui va, nouvelle physique, qui s'appliquant devient la technique, qui a changé la planète, qui a changé le monde où nous vivons, n'est-ce pas ? Donc il y a, et ça, les Chinois ont beaucoup réfléchi, c'est une grande question qu'on a du XXe siècle, surtout en Chine, mais aussi chez Nidam, qui est pourquoi ça s'est fait en Europe et pas en Chine ? Pourquoi la Chine a raté cette marche-là ? N'est-ce pas ? Celle de cette physique classique qui a donné à l'Occident, à ce petit bout d'Occident de l'Europe de Pise à Cambridge, eh bien, une puissance sur le monde inégalée. Qui fait que pendant trois siècles, eh bien, le monde a été... Si vous prenez un atlas d'histoire des sciences, vous voyez que jusqu'au XVe siècle, la science, il y en a partout.
dans le monde islamique, il y en a dans le monde indien, et en Europe, et ailleurs. Et qu'est-ce qui fait que, fin du XVIe siècle, disons, eh bien, l'histoire des sciences se concentre dans cette seule Europe, ce qui donne cette puissance qui va être, disons, les trois grands siècles de la culture, de la civilisation européenne. Donc, puissance du modèle, pour moi, la grande phrase, c'est celle de Galilée. Quand Galilée dit que Dieu a écrit le monde en équation et en figure de géométrie. Donc, les mathématiques ne sont pas locales, comme elles sont en Chine, mais un langage, même le langage dans lequel Dieu a écrit la nature. Et donc, si je deviens mathématicien, je suis en même temps physicien, et donc j'ai été prise, n'est-ce pas, pour une science nouvelle, inouïe, qui est la physique, causaliste, mécaniste, enfin bon, celle des lois universelles de la nature. Quelle belle construction.
Grande construction, l'universel.
Face à quoi je parlerai de la cohérence et fécondité chinoise, de la maturation, faire mûrir. Ah, ça va être en Chine. La Chine, situation d'agriculteurs. Les anthropologues, comme ça, rangent les cultures, nomades d'un côté, agriculteurs de l'autre. En Chine, les nomades, ils sont sur les confins. Hein, on s'en protège, nomades un peu turbulents, on s'en protège par la fameuse grande muraille, n'est-ce pas, qui sépare les deux espaces. La pratique en Chine, c'est quoi? C'est l'agriculture. Population déjà nombreuse à haute époque, petite Chine, hein. Pleine chinoise, c'est pas grand. Il y a quand même deux tiers quasiment qui n'est pas cultivable. Donc la Chine pense une chose, la poussée de la plante, la maturation. Eh bien en stratégie, c'est ce que je fais. Plutôt que de modéliser, c'est-à-dire tracer un plan, un devoir-être que je projetterai sur la situation, plan de guerre, ou en économie, la courbe de croissance, ou en politique, un programme électoral, modélisation. Eh bien, faire mûrir. Mûrir quoi? La situation. Faire mûrir la situation. En stratégie, ça signifie quoi? Ça signifie qu'au lieu de modéliser, je repère ce que j'appellerais un potentiel de situation, mon potentiel de situation, point fort et point faible, dit le chinois. Et puis, repérant ces points forts, là où s'esquisse pour moi du potentiel, le faire mûrir. Mûrir, c'est-à-dire faire croître, comme ça, processuellement, progressivement, sans, comme dit Mencius, tirer sur les pouces. Il y a un beau passage de Mencius que j'ai souvent cité, d'un paysan qui rentre le soir chez lui, qui dit à ses enfants, j'ai beaucoup travaillé, j'ai tiré sur les pouces de mon champ. Ah oui, je veux que ça pousse. Je tire sur les pouces. Ce qui est fatigant, évidemment, de peu d'effet. Quand les enfants arrivent, tout est desséché. Mencius nous dit, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Vous voulez que ça pousse? Vous tirez sur les pouces. Vous produisez du contre-effet. Alors vous me direz, bon, dans ce cas-là, je ne fais rien. Je reste au bord du champ. Je regarde pousser. J'attends que ça pousse. Ni l'un, ni l'autre. Ni tirer sur les pouces, qui est de l'activisme, ni regarder pousser, ce qui est de la passivité. Qu'est-ce qu'on fait? Ce que tout ce paysan sait. Je bine, je sarcle, au pied de la pousse. Je favorise la poussée. La poussée est dans la situation. C'est la graine qui est dans la terre qui ne demande qu'à pousser. Mais bon, je rends le terrain favorable. Terrain meuble, comme on dit. Faire laisser pousser. C'est pas, comme dit si bien le Lao Tzu, aider ce qui vient tout seul. Ça, c'est une phrase d'agriculteur. Aider, c'est ce que fait tout agriculteur. Il aide ce qui vient tout seul. La poussée de la plante est dans la nature. Mais biner, sarcler, peut-être de temps en temps arroser, c'est donc favoriser le favorable. Ça, c'est la stratégie chinoise. Donc de la maturation. Ne pas hâter. Tout est dans le processus, comme la poussée de la plante. D'où ce thème auquel j'ai consacré un chapitre de ce livre, des transformations silencieuses. Tout n'est que transformation silencieuse. Nos vies ne sont que des transformations silencieuses. Grandir, vieillir, transformation silencieuse. Pourquoi silencieuse? Pourquoi pas invisible? Pourquoi est-ce Louis qui est en cause et non pas la vue? La vue, grand choix grec, la perception, la perspective. Louis. Pourquoi pour dire intelligent en chinois, je dis Songming? Entendant, voyant. D'abord l'écoute, d'abord l'oreille. Parce que la vue, c'est le sens du local et du discontinu. Je regarde ici ou là. Et devant moi. Ici ou là, je peux ouvrir les yeux, fermer les yeux. Local et discontinu. Louis est le sens du global et du continu. j'entends de partout. Derrière ma tête, j'entends aussi bien. L'œil, l'oreille est ce cornet qui reçoit de partout. Et puis, l'ouïe est le sens du continu. Je peux ne plus écouter, mais j'entends encore. On dit fermer l'oreille, mais on ne ferme pas l'oreille. Enfin, pas l'oreille comme on ferme les yeux. Donc, il y a cette continuité de la maturation que la Chine nous apprend à discerner. C'est ce qu'on appelle transformation silencieuse. À quoi ça couple ? Événement sonore. Moins vous avez vu une transformation s'opérer, plus ça vous revient en plein visage, brutalement, de façon sonore. Événement sonore, je prends l'expression chez Brodel, nous avons appris de nous l'histoire événementielle, des événements, des dates, quand les rois montent sur le trône, les traités, tout ça. Le pelliculaire de l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire ? Qu'est-ce que l'histoire chez Brodel ? Qu'est-ce que l'histoire comme étant le passage, par exemple, grand exemple, du féodalisme au capitalisme, du XIVe au XVIIIe siècle. Brodel est mal à l'aise pour en parler. Il parle de la quasi-immobilité de l'histoire sous ce staccato des événements. Quasi-immobilité, où il parle du temps long, la durée lente. Je préférerais dire transformation silencieuse. Le passage du féodalisme au capitalisme, c'est une transformation silencieuse. Et ce qui la rend silencieuse, c'est deux choses. C'est qu'elle est globale et continue. Global, continu, sans sujet, sans grand sujet, sans grand héros, pas de date. Mais c'est l'arrêté de l'histoire. Donc nos vies, nos histoires sont faites de transformations silencieuses, qui cheminent sans bruit. J'appelle silencieux ceux qui cheminent sans bruit et donc dont on ne parle pas. Silence des deux côtés. Chemine sans bruit, on n'en parle pas. Une relation, j'ai dit grandir, vieillir, une rupture entre deux personnes. Ça s'appelle divorce, séparation. Ça, c'est l'événement sonore d'une transformation silencieuse qu'on n'a pas vu cheminer. Au départ, nuance, réticence, silence, mais qui a fait son chemin. Qui a fait son chemin dans la situation, qui fait qu'un beau jour, eh bien, événement sonore, les personnes se rendent compte qu'elles sont séparées. Donc, vous voyez ce qui est en cause, là, finalement, c'est la figure du sujet. La Chine a pensé à la situation, et nous avons éclairé le sujet. Situation, ce qui chemine la situation, et que la Chine nous apprend à lire, fissure, faille, fossé, c'est pas tout ce qui fait son chemin, et de même façon pour notre intelligence. Nous avons l'idée, nous, européennes, que, je pense, c'est pas initiative du sujet, je vais me mettre à penser. La Chine vous dit, regardez de plus près, tout est processuel. Notre pensée est aussi une pensée de transformation silencieuse. Et puis, les événements sonores, plutôt les affleurements sonores. J'ai une idée. Vous savez, vous, le soir, vous pensez, vous écrivez, ça ne vient pas. Vous vous couchez, vous dormez. Comme on dit, écrire en dormant. Et maintenant, on se réveille. C'est là. C'est que cela a cheminé. Cheminé discrètement, silencieusement, pendant la nuit. Et le matin, les connexions sont là. Tout se trouve comme ça, comme donné. Donc, notre esprit, nous dit Mathieu, c'est pareil, n'est-ce pas ? Et avec cette formule essentielle, c'est que, comme l'eau, mais l'eau, il faut qu'elle remplisse totalement cette petite cavité pour aller plus loin. Mais elle va plus loin, donc c'est une sorte de remplissement, comme ça, de cavités successives qui fait ce cheminement de la progression. Donc nous avons effectivement en Europe posé au départ le sujet, sujet d'initiative, c'est pas, concevant et voulant, modélisant et entreprenant, bref, ce grand couplage de... du sujet classique en Europe, l'entendement qui conserve du meilleur, le modèle, et puis la volonté qui va s'investir pour faire entrer ce modèle dans la réalité avec ce que se faire entrer implique de forçage, n'est-ce pas, de dépenses. Donc, héroïsme du sujet européen, que notre vieille histoire, n'est-ce pas. Par rapport à quoi il est intéressant de penser cette maturation silencieuse, parce que globale et continue, dont on ne parle pas, et qui, soudain, fait affleurer son résultat. Eureka. Sens donc du processuel, ce que signifie Tao en chinois, la voie. Non pas la voie qui mène à un but, un telos, eidos, telos, non. La voie, par où ça passe ? La voie du viable, ou la voie du fiable, n'est-ce pas ? Par où ça passe ? Par où la situation ne cesse de se renouveler ? C'est ce qui permet de comprendre pourquoi le ciel, et cette figure importante de la pensée chinoise, le ciel, c'est... le fait que le cours des choses se renouvelle parce qu'il ne dévie pas. Le cours du ciel. Pourquoi le cours du ciel ? Parce que le ciel ne cesse capable de faire alterner le jour et la nuit, les saisons. Donc du fait qu'il ne dévie pas, eh bien, il y a renouvellement, régulation. Mais la régulation est sans but. Quand on parle de régulation, un organisme, un mécanisme qui est régulé, ça signifie qu'il maintient l'équilibre au travers du changement. C'est ça que pense la Chine, la régulation. Régulation, c'est un concept intéressant parce que en Europe, c'est un concept récent, relativement récent, et pas vraiment un concept. On s'en sert sans l'avoir vraiment intronisé, ce concept-là. Vous voyez, en économie, en urbanisme, dans tous les domaines, n'est-ce pas ? En psychanalyse, n'est-ce pas ? Freud, tantôt parle de règles, tantôt de régulation. En régulation, ce n'est pas règle. Parce que la règle, elle est prescriptive, elle est modélisante. La régulation, c'est le maintien en équilibre, par exemple, dans la psychanalyse, de l'appareil psychique, n'est-ce pas ? Oui, bel exemple de transformation silencieuse entre expériences, une cure analytique. Voilà, les lacaniens m'ont dit, votre concept de transformation silencieuse, ça nous va très bien. Une cure sur le divan, c'est une transformation silencieuse. Ce n'est pas les moments des séances. C'est tout, global, continu. Alors on fait des tranches, comme on dit, n'est-ce pas ? Et puis, il y a le résultat, un beau jour, ben, ça va mieux. Ce qui s'était bloqué, coincé, ben, se débloque. Oui, coincé, bloqué. Ça, c'est la pensée du mal. Là encore, ressource chinoise, pensée du mal comme étant simplement un blocage. Pas de position du mal et du bien. Le mal, on dit souvent dire le non-bien. De toute façon, comme ça, sur un mode purement restrictif. Et l'idée qu'au fond, le mal, c'est quand ça coince. Quand justement la voie ne passe plus. Quand c'est plus viable. C'est pas, qu'on achoppe, ça coince. Obstruction. Donc, maturation.
Troisième concept, pour aller vite.
Plutôt, dont je fais un concept. Oui, je tiens à le préciser. Ce que je lis, c'est les textes chinois. J'y repère des cohérences. Et ces cohérences, j'essaie d'en faire des concepts. C'est pas, pour les mettre en vis-à-vis de notions européennes qui nous servent d'outils. Je dirais, troisième concept, propension face à la causation grecque. Le savoir grec est un savoir de la causalité. Le pourquoi. La cause, aitia. Et le fait que les Grecs ont pensé donc aitia arché, les deux premiers termes du vocabulaire d'Aristote. Le principe, qui est la cause. Première cause. L'idée cause chez Platon. Première cause, Dieu. Dieu comme première cause. Aitia. Le savoir grec est un savoir de l'explication. Or, qu'est-ce que c'est qu'expliquer ? Expliquer, c'est quitter l'expérience pour y trouver un dehors. Je vis quelque chose et je dis, c'est un effet. Et cet effet, je vais y trouver une cause, en dehors. En dehors. L'explication. Il faut entendre le ex de expliquer. L'explication, c'est un dépliement par le dehors. Le dehors de la cause, d'où résulte l'effet. Bon, je dis ça très vite, mais vous voyez ce qui est en jeu. C'est important parce que notre savoir est un savoir explicatif. En tout cas, la cause a dominé le savoir occidental depuis les Grecs jusqu'à chez Kant et au-delà. Et la physique contemporaine s'interroge là-dessus. Est-ce que la cause, c'est vraiment la bonne clé ? C'en est une, certes. Est-ce que c'est la seule ? Donc, passer d'un régime d'explication à un régime d'implication. Voilà ce que la Chine nous fait faire comme voyage. L'implication, ou ce que j'appelle la propension. Terme rare en français, mais présent chez Leibniz, premier penseur du rapport Chine-Europe, et qui me paraît inscrire un vis-à-vis fécond face à la causalité, non pas explication, de dehors de la cause, mais implication, c'est-à-dire enchaînement consécutif, n'est-ce pas, de ce qui n'est plus l'effet, mais ce qui est une phase, une étape, n'est-ce pas, étape de processus. Alors, dans le terme de propension, il me paraît important, pourquoi ? Parce qu'au fond, si j'essaie de... rien n'est pire que de résumer, donc... Je ne cesse de me contredire ce soir parce que je résume. Bon, je fais ce qu'il ne faut pas faire, mais à titre de, d'esquisse. Hein.
Le tableau ne sera pas achevé.
Mais vous savez de Picasso, achever un tableau, c'est comme achever un taureau, c'est le tuer. Donc on n'achèvera pas. Enfin, que comme disent les Chinois, commencer à dire. Commencer à dire. On ne fait que commencer à dire. Le sage chinois, c'est ce qu'il fait. Dire à peine. Commencer à dire. Si yen. Donc ce que je commence à dire, c'est cela. C'est qu'il faut penser ce qui est une situation par écart avec le sujet. Ce qu'a éclairé la pensée européenne, et de plus en plus, c'est la figure du sujet. Moi, sujet. D'abord, c'est la langue qu'il fait. le cas sujet. Je conjugue. Donc tout le verbal est assigné à du sujet. La grande difficulté quand on lit le chinois, en chinois classique, c'est de quoi s'agit-il ? Où est le sujet ? J'ai du verbal, mais je ne sais pas quel est le sujet de ce verbal. Sujet, terme vient des Grecs. Nous, on le dit en latin, subjectum, le sous-jacent. Sujet, sous-jacent. En grec, hypokaimenon. Aristote, la physique d'Aristote. Le sujet, c'est quoi ? C'est le sous-jacent du changement. C'est-à-dire qu'il y a le changement ? Bon, les Grecs le disent comme les Chinois. Le monde change. Il y a du changement. Changement entre les opposés. Antikeimena, dit Aristote. Le chaud et le froid. Le jeune et le vieux. Extrême. Antikeimena. Mais il y a un troisième terme. Et l'Europe n'a cessé d'être en quête de ce troisième terme. Tritonti. Troisième terme qui est le sous-jacent du changement. Ce qui ne change pas, qui est sous le changement et qui ne change pas. Hupoménon, dit Aristote. Le reste en sous. Première figure du sujet. Sujet physique. Mais sujet physique qui se couple avec un autre sujet dans Aristote, qui est le sujet logique, sujet de la phrase. Enfin, qui est, comme dit Aristote, ce dont tout le reste est prédicat et qui lui n'est prédicat de rien, le sujet. Et donc, la grande affaire d'Aristote, c'est qu'il couple le sujet physique et le sujet logique. Ce sujet qui nous est si familier et que nous allons charger ensuite de subjectivité. Alors, évidemment, chez les Grecs, ce n'est pas un sujet subjectif. C'est un sujet sous-jacent du changement et sujet logique de l'énoncé. Alors là, on y va successivement, déjà chez les stoïciens, le fait que, eh bien, on repère bien sûr, il y a le monde, et les Grecs pensent à partir du monde, des choses, pragmata, du cosmos. Mais les stoïciens, avec la perte de la liberté politique, de la cité, isolent dans l'âme, pas de sujet, dans l'âme, une citadelle intérieure, une acropole, terme grec, acropolis, une acropole intérieure qui est ce qui est to egonomikon, cette partie hégémonique de l'âme, qui est donc, n'est pas touchée par la situation, indépendante de la situation, cette sorte de repli, comme ça, en moi, que le monde ne touche pas, le monde ne m'atteint pas, stoïcien. Et puis après, la grande affaire, c'est quoi ? Ben, c'est le christianisme, qui, Augustin, enfin je prends chez Augustin parce que c'est ce que va faire Descartes, n'est-ce pas ? Qui est que ce cogito de Descartes, qui se trouve déjà chez Augustin, qui est que si je me trompe, c'est que je suis. Et là commence quelque chose qui est l'aventure du sujet, sujet comme le subjectif, n'est-ce pas, que le christianisme promeut et qui va être la grande mise en tension de la pensée européenne. Face à quoi, du côté chinois, ce que la pensée chinoise pense, c'est quoi ? C'est ce que j'appelle en français, mais mal en français. Situation. Je vois là donc un embranchement, un grand écart entre le déploiement de la pensée du sujet en Europe, et ce que je vais appeler d'une façon mauvaise en français, pour dire ce qu'ils pensaient en chinois, la situation. Pourquoi mauvaise ? Parce que situation sous-entend le sujet. Si j'ai situation, c'est qu'il y a un sujet situé dans la situation. La situation, donc, c'est l'entour. L'entour du sujet. Prenez ce terme en européen. Oui, européen. Il y a une langue européenne. Définition de la situation, c'est ensemble des circonstances. Petit Robert. Circonstances, terme européen. Circumstare, ce qui se tient autour de quoi ? Du sujet. Les circonstances, voyez, le terme paraît faux par les deux bouts. Il y a l'idée d'abord que le monde, c'est des circonstances autour de moi, et que ça se tient, stare. Circum, autour, stare, se tenir. En grec, peristasis. En allemand, Umstand. Toujours le même sémantisme. L'idée que je suis un sujet solitaire, comme une île, pas au milieu des flots, il y a les vagues des circonstances qui viennent battre contre le roc, n'est-ce pas, du sujet. Donc, je regarde ma montre parce que tout cela, évidemment, est infini en développement et je sais que j'ai un train à prendre et puis que vous serez fatigué. Oui, circonstances. Pauvre sujet soumis aux circonstances. Donc, ce qu'elle n'a pas pensé l'Europe, c'est la situation, c'est-à-dire la configuration des choses dans laquelle ce que nous nommons sujet peut se croire isolé. Et la situation est en transformation continue. C'est ça que dit la pensée sur la situation en Chine, c'est qu'elle ne se tient pas comme une circonstance starée. C'est que, qu'est-ce que c'est qu'une situation ? C'est une mise en tension. Mise en tension par quoi ? Par accouplement, par corrélation. Une situation, c'est une corrélation c'est-à-dire une polarité. Famille, pas parents, enfants, frères et sœurs, gouvernants, gouvernés, etc. Une situation, c'est donc ce qui, dans le cours des choses, se détache par une mise en tension, formant polarité, formant polarité, donc s'organisant en corrélation. C'était mon premier terme. Et cette corrélation engage une transformation. Toute situation est en transformation. C'est ça que nous dit le chinois. Nous n'avons pas de staré, de ce qui se tient, ce qui tiendrait autour. Toute situation est en transformation. C'est pour ça que le terme de situation est beaucoup trop stable. Toute situation est en transformation. Et la transformation, comment ? Par propension. Voilà ce qu'on appelle la propension ou l'implication, par distinction avec la causation ou l'explication, une propension. Une des choses qui m'a, quand je commençais à travailler en chinois, j'avais écrit un petit livre à partir de là, ce terme chinois qui signifie, que je voyais traduit en français, en langue européenne, aussi bien par situation que par transformation. Mais comment le même terme peut dire les deux ? Parce que ce terme-là, justement, che en chinois, nous situe à l'inséparation du statique et du dynamique. Pensez donc que nous avons distingué, nous, le synchronique et le diachronique, c'est pas comme deux dimensions possibles de la pensée. Eh bien, se situer en amont de cette séparation-là, là où toute configuration est en même temps en transformation. Aussi bien situation que cours des choses, n'est-ce pas ? Donc la Chine nous apprend à penser cela. Il nous apprend à penser cela notamment sur le plan stratégique, puisque c'est ça en fait que je traduis par potentiel de situation en stratégie. C'est donc ce qu'il y a de dynamisme investi dans une situation, c'est-à-dire ce qui déjà l'oriente et la fait travailler, n'est-ce pas, et qui repère donc le stratège pour voir quelles sont les propensions à l'œuvre et comment donc les faire mûrir pour justement progressivement infléchir la situation à son profit. Quand le potentiel de situation est de mon côté, je peux engager le combat, j'ai déjà gagné. Parce qu'il y a la grande stratégie chinoise du non-agir. Pas besoin d'agir, puisque j'ai fait mûrir. J'ai fait mûrir donc la propension favorable, c'est pas, et quand elle est mûre, j'ai plus qu'à cueillir le fruit prêt à tomber dans ma main. Donc, grande stratégie du non-agir. J'ai déjà parlé un peu en creux des ressources chrétiennes. Décidons donc arbitrairement de m'arrêter là pour ce qui est des ressources chinoises, et voyez un peu vers quoi ça nous engage. Penser des processus, des maturations, transformation silencieuse, implication, propension, Tao. Ressources de l'intégration chrétienne en vis-à-vis. Or, j'indiquerai trois, une que j'ai déjà indiquée. Le sujet de la certitude. Second, normalement, c'est très arbitraire ce à quoi vous m'avez invité ce soir, Pascal David. De me dire, vous aurez une heure pour parler des ressources chrétiennes face aux ressources chinoises. C'était un piège, mais il faut que j'en sorte. Donc, trois triangles, un triangle encore. Triangle, ça sera donc le sujet et comment le sujet devient subjectif. Comment il n'est plus seulement le sujet d'Aristote, c'est ça qu'apporte le christianisme. C'est qu'on n'est pas seulement le sujet physique, troisième terme, le sous le changement, on n'a pas seulement l'âme stoïcienne qui s'isole du monde dans une acropole intérieure, on a quelque chose d'autre qui est l'avènement du sujet. Les Grecs ont dit, les Grecs du platonisme ou du plotinisme, ont dit qu'il y avait ectos tout cosmou, en dehors du monde. Mais quoi, c'est le beau qui est en dehors du monde. C'est le beau qui est dans le monde et en même temps en dehors du monde, l'idée. Tout autre quand Christ dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Mon royaume, n'est-ce pas, n'est pas de ce monde, n'est pas d'ici. Hein. Il y a cette figure du sujet. Le Christ, au fond, tel que je comprends, n'est-ce pas, et cette émergence de la figure du sujet. D'un sujet qui devient subjectif, sujet qui souffre, n'est-ce pas, sujet totalement homme, totalement Dieu. C'est à cette figure, si vous voulez, d'un sujet qui devient... Il y a déjà une intériorité de la pensée grecque, du « endon », comme dit Plotin, du « dedans » de l'âme. Simplement, quelle est cette mutation ? Simplement, tout ça est en grec, oui, mais qu'est-ce qui est cette émergence d'un nouveau possible, d'une nouvelle ressource que fait apparaître le christianisme ? Alors, je vais dire ça très rapidement, un peu en tableau. Eh bien, c'est qu'on n'est plus dans le sujet d'Aristote ou des stoïciens, c'est le sujet d'Augustin, sujet de la certitude. C'est plus la vérité des Grecs ou la philosophie grecque. La certitude, ça se dit en latin. Certus, être certain d'eux. Donc, une vérité, mais qui est intérieure. Une vérité qui est que si je me trompe, c'est que je suis. Comme dit Augustin, comme ouverture au cogito. Les Grecs pensent à partir de quoi ? Du monde ? Des choses ? Eh bien, ce qui s'apparaît à partir du christianisme, c'est qu'on va penser à partir du sujet. Et l'accomplissement de ça, c'est Descartes. Cogito. Je doute, je pense, je suis. Figure du sujet. Sujet de la certitude. Non plus la question de la vérité, mais une nouvelle ère de la vérité qui est la certitude, qui est la vérité du sujet. La certitude. Vérité du sujet. Je suis certain d'eux. C'est pas c'est vrai, c'est je suis certain. Je suis certain. Donc, figure du sujet émergent chez la certitude chez Augustin. Parce que c'est essentiel dans cette promotion du sujet par le christianisme, c'est quoi ? C'est qu'il y a un vis-à-vis, c'est Dieu. C'est le début des confessions. Magnus est Domine, tu es grand Seigneur. Donc, le fait qu'il y a un vis-à-vis instaurant le sujet, qui est le sujet divin. De dire tu, l'invocation. Alors là, c'est là qu'on s'écarte de la pensée chinoise. Je ne sais pas dire en chinois parler à quelqu'un. Je dis quoi en chinois ? Kenichu, je parle avec toi. Mais parler avec toi ou parler à toi, là est l'écart. Parler avec toi, c'est un déroulement, c'est un processus, la conversation. Parler à toi, invoquer l'apostrophe, le vocatif. Magnus est Domine, tu es grand Seigneur. Domine, vocatif. Donc je crois qu'il y a quelque chose là qui est une nouvelle disposition essentielle. Alors, de voir comment du côté chinois, tout ce qui a été de la prière s'est plutôt retiré, profit de la régulation, du ciel, etc. Et qui, au contraire, dans le christianisme, est trouvé comme ça, promu, qui est l'invocation de Dieu. Les confessions d'Augustin, c'est quoi ? C'est Dieu, vis-à-vis de Dieu, le dialogue avec Dieu, parler à Dieu. Non pas parler de Dieu, la théologie, mais parler à Dieu. Ça, c'est le religieux. Il y a l'écart entre la théologie, parler de Dieu, ce qui est impossible, l'apophatisme, et puis ce qui est immédiat, parler à Dieu. C'est tout autre chose. Le vocatif, l'invocation. Donc voilà la ressource qui n'est pas en Chine, qui est cette ressource qui n'est pas en Chine. Vous voyez, je creuse l'écart, n'est-ce pas ? Qui est donc, encore une fois, prenez la langue, parler avec quelqu'un ou parler à quelqu'un, je dirais, ça change tout. Donc mon second point est celui-là, la rencontre de l'autre. Ce qui me paraît la seconde grande ressource, mais justement, interrogation, questionnante, l'autre. Non pas l'autre du même, non pas l'autre de la corrélation, mais l'autre qui ne se range pas dans la relation. La rencontre, la rencontre. Dans ma vision, ma conception, là où j'en suis, ce qui me paraît essentiel de la figure du Christ, c'est qu'il est la figure de la rencontre. Au fond, pour moi, tel que je lis l'Évangile, c'est le Christ rencontre quelqu'un. Il dit, tiens, viens. Il lui parle, viens. Pas pour en faire un disciple, pas pour être un maître. C'est pas la rencontre. Alors la rencontre, c'est quoi ? C'est ce qui ne s'intègre pas dans une relation. Dès que la rencontre est devenue relation, la rencontre est perdue. Je parle du couple, n'est-ce pas ? Quand un couple se clôt dans sa relation de couple, il n'y a plus de rencontre. Quelque part, le couple est mort. Donc la rencontre, c'est ce qui ne se laisse pas intégrer dans la corrélation. Alors comme j'ai dit que le chinois est une pensée de la corrélation, vous en déduisez donc que la pensée chinoise n'a pas pensé la rencontre. L'autre en tant qu'autre, non pas l'autre du même, non pas le pôle de la polarité, l'autre pôle, non pas le yin par rapport au yang, mais l'autre autre, c'est-à-dire ne se rangeant pas dans l'attente du sujet. La rencontre, cette effraction de l'autre, inintégrable, et donc faisant événement. Événement, voilà. Notion venue du christianisme, en sens ou promue par le christianisme, face à avènement. L'avènement, c'est l'événement de l'immanence. La nature d'un événement continue. Et la Chine a pensé très bien l'immanence processuelle. L'auto-avènement des choses, en moi comme dans le monde, avènement. Mais non, là, christianisme, la rencontre, je ne parle pas d'avènement, mais d'événement. En faisant jouer ce ex du événit, du surgissement, effraction, surgissement, événement, événement de la rencontre. Événement de la rencontre qui se perd dans la relation. dans l'intégration de la relation. Alors, je crois que c'est l'histoire de la tradition hébraïque et chrétienne. Rencontre, rencontre de Moïse au Sinaï. Et donc, face à face, la Chine, vous savez, évite le face à face. Toutes les stratégies d'obliquité, n'est-ce pas ? Parler de biais. Quand on parle en Chine, même aujourd'hui, n'est-ce pas ? À côté l'un de l'autre. Éviter l'indécence, l'insolence du face à face. Les yeux dans les yeux. Rituel chinois, politesse. Éviter cette sorte de, bah oui, d'intolérable qui est les yeux dans les yeux, le face-à-face. Au contraire, je crois que ce qui est mis en place dans le christianisme, c'est le grand face-à-face. Magnus est Domine, tu es grand seigneur. Enfin, ce vis-à-vis, ce face-à-face, ce dévisagement. Donc le Sinaï, c'est déjà le face-à-face inintégrable. Et le christianisme, in Christo, dans le Christ dessinant cet espace de la rencontre, ou sauf à la rencontre, inintégrable, faisant événement. On a dit que je m'arrête à 20h30, mais vous me laissez encore 5 minutes ? 10 Non, parce qu'il me faudrait des jours, des nuits, et bon. Oui, ce que la Chine a pensé, c'est la rencontre opportune. Il y a un mot pour dire ça en chinois, n'est-ce pas ? Le bon moment, les choses tombent bien. Ça, c'est la rencontre, je dirais, à la chinoise. Hein. L'opportun. Grande attention chinoise pour... Voilà, ce qui est de saison, comme on dit en français, assaisonné, maître de saison. Ça, la Chine a pensé ça. Mais pas la rencontre, effraction, événement. Parce qu'il y a une chose à comprendre quand même. C'est pourquoi le christianisme a eu tant de mal à entrer en Chine. Oui, ça, c'est l'histoire qui nous le dit. Le bouddhisme est entré en Chine. Et mille ans plus tard, c'est le christianisme. Le bouddhisme vient d'Inde, ce qu'on appelle en Chine l'Occident. Et puis, un millénaire plus tard, il y a l'extrême Occident. Comme nous disons l'Extrême-Orient, c'est l'expression chinoise, avec ces missionnaires qui débarquent un beau jour, n'est-ce pas, avec un message universel, un message de salut. Pourquoi ce n'est pas entré en Chine ? Quelqu'un, je trouve, alors je citais tout à l'heure, je la recite, la grande formule de Pascal, que je trouve magnifique, dans les pensées. Lequel est le plus croyable des deux, Moïse ou la Chine ? Bon, je trouve ça un énoncé génial. Moïse ou la Chine ? Alternative ? Voyez ce que Pascal dit de l'islam, c'est tout autre chose. Mais là, la Chine, il y a un paragraphe. Lequel est plus croyable des deux, Moïse ou la Chine ? À la fois alternative, en même temps bancale. Moïse, grande figure du monothéisme, de l'aventure religieuse de l'Occident. Face à quoi ? La Chine. Non pas tel ou tel sage chinois, mais la Chine. Espace de pensée dont Pascal ne sait quasiment rien, si ce n'est qu'il voit bien la force d'objection qu'il constitue par rapport à la pensée chrétienne. Moïse ou la Chine ? Et alors, chez Montesquieu, à la fin du premier livre d'Esprit des lois, quand il dit, il y a une chose triste, c'est que la Chine ne se convertira pas. Je trouve ça prodigieux. Au XVIIIe siècle, alors qu'on est encore dans l'idée universelle de l'Occident, voir qu'il y a une résistance culturelle à l'entrée du christianisme en Chine. Alors, cette résistance culturelle à l'entrée du christianisme, alors que le bouddhisme était entré en Chine, le bouddhisme venant d'Inde, n'est-ce pas, nous donne à penser... Et surtout la force de l'écart et le fait que ben j'imagine effectivement qu'il y a des dénoncés chrétiens très difficiles à entendre en Chine. Alors d'abord le grand énoncé anti-rituel par excellence, l'énoncé de Paul, ni grec ni juif, ni homme ni femme, ni maître ni esclave, cette neutralisation des différences dans un pays du ritualisme, donc des différences hiérarchiques, n'est-ce pas ? L'idée d'un dieu mourant comme un esclave sur la croix, n'est-ce pas ? C'est une effraction logique. Déjà, Paul dit folie de la croix, malheur, folie au carré, enfin, folie. Tout le ritualisme chinois qui fait tenir la sociale, n'est-ce pas ? La hiérarchie, les enterrements avec 7 cercueils, ou 5, ou 4, ou 3, ou 2, ou pas du tout, ou jetés dans le fossé, n'est-ce pas ? Tout ça se hiérarchise. Ben non, on vous dit ni maître ni esclave, n'est-ce pas ? La neutralisation, retirer toutes les différences pour promouvoir un universel d'enfants de Dieu. Bon. Donc, l'autre en tant qu'autre, l'événement qui n'est pas événement, du visage donc, ou du non-visage, n'est-ce pas, sur le. Oui, dans la tradition hébraïque, sur le Sinaï, et penser le Christ comme étant ce qui configure la rencontre, qui rend la rencontre possible comme rencontre donc non intégrée. Et puis, troisième angle de ce triangle, mais qui est dans la suite des deux autres. J'ai dit le sujet de l'attitude, j'ai dit la rencontre de l'autre, je dirais l'intime. L'intime. Ça me paraît être une ressource chrétienne. L'intime, je vais écrire un petit bouquin là-dessus pour essayer de faire de montrer comment l'intime n'était pas grec. Il ne faut pas d'intime grec. Prenez Hector et Andromaque sur les murs de Troie, chant 6 de l'Iliade. Prenez le théâtre grec, Alceste et Admeste chez Euripide. Il n'y a pas d'intime. Chacun est dans son destin, son lot. Et méfiez-vous des traductions. Quand il est dit à la traduction d'Euripide chez Budée, nous pourrons vivre le reste de notre vie, ce n'est pas en grec. Le grec dit, toi et moi, le reste du temps. Il n'y a pas la vie, il n'y a pas nous. Il n'y a pas ce nous de l'intime, c'est toi et moi. Les Grecs ont cette idée de destin isolé. Chacun a sa moira, sa part, n'est-ce pas, son lot. Toute autre chose avec, en latin, et ce mot qui me paraît mot ressource, mot fécond, intime, intimus. Intimus, c'est quoi? C'est le superlatif de intérieur, plutôt de dedans. Intus, dedans. Intérieur, plus dedans. Intimus, le plus dedans. Le plus dedans. Qui n'a pas de répondant au dehors. Le répondant superlatif, c'est extremus, l'extrême. Intime. Ce mot me paraît un mot ressource, parce qu'à la fois il dit le plus dedans de moi, ma conscience intime, et en même temps il dit le plus profond du rapport à l'autre. Nous sommes intimes. Dès que je dis intime, du mode prédicatif, il faut l'autre. Je suis intime avec toi, nous sommes intimes. Donc l'intime dit à la fois le plus profond du sujet, le plus dedans du dedans, intimus, et en même temps dit que le plus dedans du dedans, c'est l'ouverture à l'autre. L'ouverture à l'autre. C'est ça que nous dit, je crois, ce mot intime. Le plus dedans de moi, et c'est ce que je trouve précieux en lui, dans ce mot, c'est qu'il nous sort de l'intériorité. Vous savez, ce dedans qu'on cultive comme ça, à part soi. L'intime nous en sort parce qu'il nous dit le plus dedans, c'est la rencontre de l'autre. Donc chez Augustin, Deus interior intimo meo. Dieu est plus dedans que mon intime. Dieu, le dehors, l'extérieur. Dieu est plus dedans que mon, le très dedans. Vous voyez, un comparatif du superlatif. Vous voyez, si on a creusé. Hein. Ça, c'est ce creusement chrétien. Dieu plus intérieur que mon intime. Alors, je crois que là, il y a quelque chose qui est une grande ressource, déployée par Augustin. Dans mon sens, tout Augustin tourne autour de ça. Et qui n'a cessé de travailler la conscience européenne. Dans mon petit bouquin, j'ai indiqué quelques étapes à travers Rousseau, les confessions de Rousseau. Les confessions, oui. On reprend cette matrice des confessions de Rousseau ou d'un Stendhal, n'est-ce pas, grand mot stendhalien. Et là, on peut voir des âges. Dans La princesse de Clèves, je ne sais pas si vous avez ce roman en tête, il n'y a pas d'intime. Il reste en deçà. Pour la dernière scène de La princesse de Clèves, le duc de Nemours, la princesse de Clèves, ils sont libres. Le prince de Clèves est mort, exit le mari, donc. Il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a plus la cour, ils sont seuls, en rendez-vous, parfait. Qu'est-ce qui se passe? Chacun plaide sa position, n'est-ce pas? Elle pour dire pourquoi elle ne se donne pas, lui pour dire pourquoi elle doit se donner. Chacun est dans sa perspective. Il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de nous. Princesse de Clèves est un roman qui n'est pas entré dans l'intime, d'où l'échec final d'ailleurs. Chacun se retire, elle pour mourir dans sa province, et lui, bon, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais rideau, c'est fini, il n'y a plus rien à attendre. Alors que Stendhal, c'est un pas plus loin, dans Stendhal, il y a l'intime. Prenez les grands romans de Stendhal, prenez Le Rouge et le Noir, ou, que j'aime beaucoup, Lucien Leven, roman inachevé, mais tous les romans de Stendhal sont inachevés. Parce qu'une fois que Stendhal a dit ce qu'il a envie de dire, après, voilà, pourquoi finir un roman? Mais surtout, pourquoi finir un roman si c'est l'intime? Parce que l'intime est sans intrigue. C'est la différence, intime ou intrigue. D'abord, il y a l'intrigue de la conquête. Ben, Julien Sorel, Evan de Reynal, ou alors Lucien Leven avec, avec la belle Bathilde, Madame Chasteller. Là, il y a intrigue. La conquête de l'autre. On n'est pas encore dans l'intime. Parce que l'intime, c'est quand on n'a plus de projet sur l'autre. Quand on reconnaît l'autre en tant qu'autre. Là, au départ, les personnages tindaliens, ils sont conquérants, ils veulent arriver à leur fin. Et puis, il se passe cette chose qui n'est pas en fait la chasse au bonheur. Tout autre chose, qui est une mutation, c'est qu'ils passent de la conquête, non pas à la possession, ils passent de la conquête à la découverte de toute autre chose, l'intime, le nous. Le nous, n'est-ce pas ? Le nous, et qui n'a plus besoin du monde, comme Lucien Levenne et Mme Chasteller dans les... à Nancy. Et alors, chez Stendhal, ça s'organise en deux tomes, vous savez. Il y a le tome de la conquête, qui reste conquête, sans intime, c'est Paris. Mathilde Lamolle, dans Le Rouge et le Noir, Madame Grandet, dans Lucien Levenne, Paris. Paris, c'est pas d'intime possible. La province, tous ces romans du 19e sont faits en deux tomes. Paris, la province, n'est-ce pas ? Elle a monté à Paris, enfin bon, bref. La province, dans l'ennui de la province, dans le retrait, cette possibilité d'un intime, c'est-à-dire la découverte d'un rapport à l'autre tout autre que celui qu'on avait escompté. Non plus la projection de la conquête, mais vous voyez, quand entre Julien Sorel et Madame de Rênal, il lui prend la main la nuit à Vergy, et puis il la reprend pour montrer qu'elle est à lui, la conquête, voilà, ça le sujet qui s'impose. Et donc, rapport intéressé. L'intime, c'est quand il n'y a plus ça. Ça se retire. N'est-ce pas ? Plus d'intérêt, plus de projection d'un plan, d'un projet, bref, tout cela, qu'il y ait une découverte de qu'est-ce que c'est qu'à deux. Être à deux, le nous. Le nous. Et avec ce qui est essentiel à l'intime, c'est qu'on ne sait plus à qui c'est dû. Différence essentielle avec l'amour. L'amour, je t'aime. Sujet, un objet, l'objectal, tout ça, on connaît. Et puis on peut, je t'aime et tu ne m'aimes pas. Dissymétrie possible. L'intime, non. L'intime, je m'en défais cette séparation-là. Ce n'est pas moi qui suis intime avec toi ou toi qui suis intime avec toi, c'est indifféremment toi et moi. On oublie qui est la source, n'est-ce pas ? On oublie d'où ça vient. Il y a cet sentiment d'intime, je dis intime, pas intimité, qui est déjà une sorte de propriété, encore moins intimiste, qui est une sorte de chute de tout ça, mais qui est donc le fait qu'il y a inséparation, n'est-ce pas, dans cette rencontre de l'autre. Donc je dis sujet à certitude, et l'intime, c'est bien la certitude dont il s'agit. Je dis ensuite rencontre de l'autre, l'autre en tant qu'autre, mais cette rencontre de l'autre, justement, faisant naître l'événement de l'intime, où l'autre et moi, restant tout autre, n'est-ce pas, forme ce nous du tout autre. Alors je pense qu'ici, une ressource du christianisme, elle est là. Ce que dit Ecclésia, ou Église, n'est-ce pas, qui n'est pas le temple, qui est cette communauté faite de quoi ?
Eh bien, c'est la question que je voulais poser. Donc,
sujet impossible à traiter, qui est donc le fait qu'il y a, c'est là que c'est plus difficile, pensée chinoise, interrogation chrétienne. Interrogation. Qu'est-ce qui est donc de cette inquiétude ? Qui est au cœur du christianisme, donc sa fécondité, Unruhe, comme disaient les Allemands, comme disait Hegel, c'est pas Hegel qui, au fond, a pensé à partir du christianisme. La grande idée de Hegel, c'est quoi ? La dialectique, c'est un dépliement du christianisme. Que Dieu ne peut pas rester avec lui-même, qu'il a besoin de l'autre, d'où le Christ. C'est ça que pense Hegel, n'est-ce pas ? C'est là d'où vient la dialectique. Il y a une note d'Hippolyte, dans son grand commentaire Genèse et structure de la phénoménologie de l'esprit, qui dit cela, qui pointe cela, mais sans le développer du tout, c'est une note. Vous savez, quand on met en note, c'est qu'on ne pense pas. On met ça à côté en disant, mais c'est aussi important. Oui, ce fait qu'au fond, il y a cette singularité essentielle du christianisme, j'ai dit une, c'est le grec, comme l'autre langue. Là, il y a de l'autre. Et l'autre autre ressource, c'est une singularité comme ça, extrême, qui est que Dieu, eh bien... le Fils, n'est-ce pas ? L'idée qu'au fond, il ne peut être pleinement, tel que je dis les choses, pleinement Dieu qu'en étant avec l'autre, n'est-ce pas ? Qu'en étant en rapport à l'autre, qu'en étant en rapport non relationnel à l'autre, rapport non rapport, n'est-ce pas ? Ce que je vous dis, si la rencontre s'intègre, Dieu est relationnel, il n'y a plus de rencontre. Donc Dieu étant cette figure de la rencontre de l'autre, Dieu le Père, le Christ, le Fils, n'est-ce pas ? Je crois que c'est ça qui a été fécond de la pensée de Hegel, qui l'a dialectisé, notamment avec la figure de l'esprit, comme la figure qui vient après. mais qui est donc cette inquiétude, unruh, cette inquiétude essentielle, existentielle, pas l'inquiétude que garde, n'est-ce pas, cette inquiétude, c'est-à-dire ce non-repos, cette incapacité, cette impossibilité, ou plutôt cette stérilité du rester en soi, et que l'intime montre, n'est-ce pas, rencontre de l'autre, intime, c'est-à-dire au fond, le fait qu'il n'y a de vérité de soi que dans ce rapport à l'autre, restant autre, mais pouvant former un nous. Bon, ben, je vais m'en tenir là.